Bonjour Claire Kérudal.
Bonjour.
Dans la presse ce matin, les difficultés d'Anne Hidalgo, rien de nouveau sous le soleil a priori. Sauf que vu ce que révèle le Figaro, la campagne socialiste pourrait bien rimer avec minimaliste.
La journaliste Sophie Dravinel explique en effet que plusieurs banques ont refusé un prêt à Anne Hidalgo. Même le Crédit Coopératif, pourtant banque historique du PS, n'a plus de coopérative que le nom, du moins pour celle qui plafonne dans les sondages à 4 ou 5%. Conséquence, le PS songerait déjà à un plan B. Ce ne serait plus la candidate qui souscrirait un prêt, mais des fédérations encore riches, comme celle de Paris ou du Sud-Ouest. Pire encore que le plan B, le plan D comme désertion, et le Figaro de citer un cadre du PS. Certains ont le pied sur le frein pour limiter les dépenses et pouvoir plus facilement s'adapter à un retrait en février. Pour autant, pas question de paniquer pour l'équipe de la candidate. Le message officiel est passé par la trésorière de la campagne de la maire de Paris, Marie-Pierre de la Gontrie. Il y a zéro sujet, nous n'avons pas de refus, nous discutons, c'est différent. Toutes les banques ne regardent pas que les sondages, elles regardent aussi notre robustesse financière. Une robustesse qui avait permis à Benoît Hamon de faire la deuxième campagne la plus coûteuse de 2017 après celle d'Emmanuel Macron, rappelle le Figaro. Pour mémoire, le candidat PS avait totalisé pour 15 millions dépensés 6,3% des suffrages.
Souviens effectivement. Une autre femme est à la une de la presse ce matin, Peng Shuai, la championne de tennis chinoise disparue depuis 18 jours.
En une de l'équipe, la jeune femme d'une trentaine d'années apparaît rayonnante, mais son portrait est barré de ses quelques caractères, hashtag « Mais où est Peng Shuai ?» Question à laquelle les autorités chinoises refusent de répondre alors que l'ex-14e joueuse mondiale a accusé un ancien haut dignitaire du Parti communiste de viol. Question que n'ose poser le CIO alors que Pékin accueille les JO d'hiver en février. Ce qui frappe aussi, c'est la lenteur et l'extrême timidité des réactions, pointe l'équipe. Il faut patienter jusqu'au 14 novembre pour voir la WTA, l'association des joueuses de tennis, s'ébrouer, soit 12 jours après les premières révélations, peut-on lire dans le quotidien. Et surtout pour le régime chinois, cette affaire jette une lumière crue sur les mœurs dévoyées de certains de ses plus hauts dirigeants et particulièrement gênante. Pékin a en effet construit une partie de sa légitimité sur la rectitude morale, explique cette fois le correspondant du journal en Chine.
Et M, le magazine du Monde, revient ce samedi sur ce qui s'est passé dans une démocratie jusque dans les années 90, mais qui était digne d'un régime autoritaire, direction le Canada.
Oui, dans des pensionnats où il fallait tuer l'Indien au cœur de l'enfant, rappelle la journaliste Hélène Jouan, reprenant les mots de la commission Vérité et Réconciliation mise en place dans les années 2000. De tout jeunes Amérindiens étaient arrachés à leur famille pour être placés dans des institutions catholiques. 6000 de ces petits pensionnaires en sont morts. Un génocide culturel qui sera au cœur des échanges entre le pape François et des victimes en décembre. Parmi elles, Richard Kistabiche, un septuagénaire resté 10 ans dans un établissement où il devait désapprendre à être lui-même. Ces écoles étaient des instruments d'acculturation destinés à ceux que l'on considérait comme de petits sauvages, explique une anthropologue. Pour Richard Kistabiche, ce fut celle des missionnaires de Marie Immaculée, dans le Grand Nord québécois. J'entends encore les fantômes de mes camarades, ceux qui pleuraient dans leur lit le soir après avoir été emmenés dans la chambre d'un prêtre, ceux qui ont tenté de s'échapper ou même de se suicider, raconte le vieil homme, aujourd'hui défenseur des langues autochtones auprès de l'UNESCO. Il se souvient aussi du dieu terrible et toujours fâché que lui vantaient les ecclésiastiques, écrit Hélène Jouan. On peut fouiller sous l'école, on ne trouvera rien, estime Richard Kistabiche. Mais sous les demeures privées des curés, l'homme ne termine pas sa phrase. C'est en tout cas la découverte de 215 restes d'enfants en mai dernier qui avait ravivé la blessure qui continue de saigner de génération en génération au Canada.
Allez, enfin, plus léger. Les riverains du périphérique parisien, largement battus au chapitre des nuisances sonores par les habitants de Serra. C'est une bourgade de 6400 âmes près de Clermont-Ferrand. Libé est allé enquêter.
Et ce qui fait devenir fous les habitants de Serra, ce sont les cloches. Elles sonnent 560 fois par jour. J'ai vérifié.
Ah, quand même. Comment c'est possible? Vous êtes allé sur place, Claire.
J'ai relu plusieurs fois l'article, quand même, pour être sûr du chiffre. Rien que pour l'Angélus de 7 heures, c'est 70 fois que le carillon se met à résonner. Et ce samedi, le résultat d'un référendum pour ou contre les cloches la nuit sera rendu public. Consultation qui doit départager, écrit Libé, les modernistes des traditionnalistes. Pour l'occasion, huissiers et policiers ont été convoqués afin que le dépouillement soit bel et bien validé et qu'on en finisse avec cette querelle de clochers.
Les cloches de Serra dans la revue de presse de Claire Kérudal.